VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 2 août 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Libye, raid aérien américain sur les positions des djihadistes du groupe État islamique à Sirte.
En République démocratique du Congo, les FARDC signalent d'importants succès contre les FDLR et autres groupes armés du Nord Kivu.
En Afrique du Sud, position plus précaire que d'habitude pour l'ANC à la veille des municipales de mercredi.
Ici aux États-Unis, vive critique contre le candidat républicain Donald Trump après des déclarations sur la famille d'un soldat musulman américain tombé au combat en Irak.
Et puis dans le cadre de notre série sur les familles présidentielles en Afrique, aujourd'hui la Guinée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal.
Frappe américaine contre le principal fief du groupe État islamique en Libye. Les États-Unis ont visé des positions des djihadistes à Sirte à la demande du gouvernement d'Union nationale dont les forces peinent à reconquérir cette ville à l'est de Tripoli. Jacques Aristide.
Premières frappes américaines qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes à Sirte, d'après Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen, aussi connu comme le GNA. Washington a confirmé ces bombardements, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, indiquant qu'il s'agissait de frappes précises contre des cibles du groupe État islamique et qu'elles allaient se poursuivre. Un responsable de la Maison-Blanche a expliqué pour sa part que le président Barack Obama avait autorisé les forces armées américaines a effectué des frappes en appui aux forces du gouvernement d'Union à la demande du Premier ministre libyen. Mais pour M. Sarraj, ces frappes interviennent dans un cadre limité dans le temps et elles ne dépasseront pas Sirte et sa banlieue. Les forces pro-GNA tentent de reprendre la totalité de la ville de Sirte, dans laquelle elles sont entrées le 9 juin et où elles assiègent depuis les djihadistes. Elles sont ralenties par la forte résistance des djihadistes qui mènent à des contre-attaques, notamment perpétrant des attentats suicides à la voiture piégée.
En République démocratique du Congo, les forces gouvernementales des FARDC affirme avoir neutralisé 650 éléments FDLR ainsi que 1046 combattants de groupes armés locaux. Selon la 34e région militaire au Nord Kivu, ce bilan a été obtenu dans le respect du droit humanitaire depuis le lancement il y a 15 mois de la traque des groupes rebelles dans l'est de la RDC. Elle affirme avoir réduit la capacité de nuisance de ses ennemis, nous dit de Goma, capitale du Nord Kivu, notre correspondant Charlie Kasereka.
L'armée congolaise se félicite du travail accompli, reconnaissant tout de même que beaucoup reste à faire, surtout dans la traque de certains groupes armés qui sont confondus aux populations civiles dans certaines zones. L'officier Guillaume Njike, porte-parole de l'opération Sokola D, chargé de traquer les FDLR et les groupes armés locaux.
De 2015 à nos jours, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 a déjà neutralisé plus de 654 FDLR, 191 rendus à la MONUSCO suite à la pression, bien sûr, plus de 1040. 46 combattants des groupes armés locaux ont été aussi neutralisés. L'ennemi nous impose une guerre non classique en se confondant à la population. À cet effet, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent professionnelles et respectueuses du droit international humanitaire.
L'Est de la RDC compte plus de 30 groupes armés qui combattent l'armée loyaliste et commettent des crimes, parmi lesquels les FDLR, une rébellion rwandaise. L'armée congolaise a lancé depuis l'année passée une vaste opération dénommée Sokola D pour traquer ces FDLR ainsi que d'autres groupes armés locaux. De Goma, Charlie Kasereka pour VOA Afrique.
Les Sud-Africains votent demain pour des élections municipales. Le scrutin s'annonce ardu pour le parti au pouvoir, affaibli par un contexte économique difficile et les scandales que traîne le président Jacob Zuma. Nani Talani fait le point.
Quelques 26 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes demain mercredi pour renouveler les maires et conseils des 278 municipalités. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir, a facilement remporté toutes les élections locales et nationales depuis la fin de l'apartheid en 1994. Mais demain, l'ANC, qui contrôle une large majorité des municipalités, abordera ce scrutin dans une position plus précaire. La situation économique critique du pays, le chômage élevé, les démêlés du président Zuma avec la justice ne jouent pas en sa faveur. De plus, toujours privés des services publics de base comme l'eau ou l'électricité, les populations les plus démunies sont mécontentes et estiment qu'il y a eu peu de progrès. L'opposition au sein de l'Alliance démocratique veut remettre en cause cette mainmise de l'ANC. L'Alliance contrôle déjà la ville du Cap et espère gagner à Johannesburg, Pretoria et Port-Elizabeth.
Au Zimbabwe, un deuxième haut responsable de l'Association des anciens combattants du pays a été arrêté hier par la police. C'est là, selon l'AFP, un signe d'une intensification de la répression contre ce mouvement qui avait osé critiquer fin juillet le président Robert Mugabe. Victor Matema Danda, le secrétaire général de l'association, a été amené par la police alors qu'il venait assister à Harare à l'audience de Douglas Mahia, le porte-parole de cette association, arrêté mercredi pour avoir insulté le président Mugabe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Politique américaine, Donald Trump faisait l'objet hier de sévères critiques de tous bords après s'en être pris à la famille d'un soldat musulman américain mort au combat en Irak. Un faux pas qui pourrait s'avérer coûteux politiquement, Morgan Guiriec.
Barack Obama, le commandant en chef de l'armée américaine, a dit hier depuis Atlanta en avoir assez que certains dénigrent l'armée et les troupes américaines. Il est temps pour Donald Trump de donner l'exemple à notre pays et au Parti républicain, s'est indigné le sénateur John McCain, un ancien de la guerre du Vietnam où il avait subi des années de torture. Les familles de 17 soldats tombés au champ d'honneur ont dénoncé ces propos répugnants et insultants. Brian Duffy, président de l'Association des anciens combattants, a taclé M. Trump, affirmant que quand on touche à certains sujets sacro-saints, il n'y a aucun talent rhétorique qui puisse réparer les dégâts. Le père du capitaine Humayun Khan, un soldat musulman américain mort en Irak en 2004 en tentant de sauver ses hommes, avait reproché à Donald Trump son projet d'interdire aux musulmans l'entrée aux États-Unis. Monsieur Trump avait répondu en insinuant que la mère du soldat avait été forcée au silence pendant la convention démocrate parce qu'elle était musulmane.
Le milliardaire américain Warren Buffett a mis hier au défi Trump de rendre publique sa situation fiscale, ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'à présent. Le candidat républicain a justifié son refus par le fait qu'il subissait un contrôle des services fiscaux américains, l'IRS. Une piètre excuse a considéré M. Buffett l'un des hommes les plus riches de la planète. Il n'a pas peur du service des impôts, il a peur de vous, a-t-il lancé à la foule.
Concernant la famille du soldat musulman tué en Irak, M. Buffett a déclaré « Je demande à Donald Trump, vous n'avez aucun sens de la décence, monsieur », a-t-il relevé. « Donald Trump et moi n'avons rien sacrifié », a souligné M. Buffett, une allusion aux insistances du républicain qu'il a fait beaucoup de sacrifices. « Comment diable pouvez-vous faire face à des parents qui ont perdu un fils et parler d'avoir fait des sacrifices parce que vous construisiez quelques immeubles », a poursuivi Warren Buffett.
Toujours aux États-Unis, un homme originaire de l'Ohio a plaidé coupable hier d'avoir planifié une attaque contre le Capitole à Washington durant le discours sur l'État de l'Union prononcé par Barack Obama en janvier 2015. Selon les autorités citées par l'AFP, Christopher Lee Cornell, 22 ans, avait été inspiré par le groupe djihadiste État islamique. Après son arrestation, il avait publié des textes en ligne, dont un appel à le rejoindre dans le djihad violent contre les États-Unis et ses citoyens, détaille un communiqué du gouvernement. Cornell est inculpé de 3 chefs d'accusation, dont un pour avoir tenté de fournir un appui matériel à un groupe terroriste et risque jusqu'à 40 ans de prison.
Les obsèques solennelles du prêtre catholique assassiné il y a une semaine par deux djihadistes de 19 ans dans son église du nord-ouest de la France ont lieu aujourd'hui dans la cathédrale de Rouen sous haute sécurité. Plus de 2000 personnes sont attendues pour rendre hommage au père Jacques Hamel, 85 ans, égorgé alors qu'il célébrait une messe matinale pour 5 fidèles dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, une ville de l'agglomération rouennaise. Ce meurtre par ces deux jeunes djihadistes qui se réclament de l'État islamique a causé un vif émoi en France, parmi les chrétiens, mais également dans toute la population, de nombreux musulmans rejetant un tel acte barbare. Le père Jacques Hamel était notamment connu localement pour son investissement personnel dans le dialogue interreligieux avec les musulmans de sa ville.
Le Conseil national électoral du Venezuela a donné hier lundi son feu vert au projet de référendum pour révoquer le président Nicolas Maduro, porté par l'opposition dans un climat de débâcle économique pour le pays pétrolier. Mais les anti-chavistes du nom de feu Hugo Chavez, l'ex-président, devront encore franchir plusieurs obstacles avant que cette consultation populaire ne voie le jour. L'autorité électorale n'a pas communiqué les dates de la phase suivante où 4 millions de signatures doivent désormais être recueillies.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
L'Union européenne a accordé un prêt de 459 millions de francs CFA à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal pour la révision des comptes nationaux du pays. La subvention concerne notamment le contrat de réforme sectorielle en appui au développement agricole durable et à la sécurité alimentaire pour un montant de 39 milliards de francs CFA. Le ministre égyptien des Finances, Amr El-Ghari, a déclaré à la télévision que la dette extérieure de l'Égypte pourrait atteindre 53,4 milliards de dollars si son pays recevait l'appui du FMI. Le pays cherche à obtenir un prêt de 12 milliards de dollars sur une période de 3 ans. Une mission du FMI est au Caire depuis le 30 juillet pour 2 semaines dans le cadre des négociations. Le comité des gouverneurs des banques centrales du marché commun de l'Afrique orientale et australe tiendra sa 22e réunion demain à Kinshasa. Ils devront se pencher sur l'utilisation du système régional de paiement et de règlement du COMESA, selon les travaux préparatoires de la réunion du groupe d'experts.
Les sports à présent avec Tatiana Mosso. On ouvre avec de nouveaux cas de dopage à la veille des Jeux Olympiques.
La Fédération russe d'haltérophilie suspendue par la Fédération internationale privant de participation aux Jeux l'ensemble des haltérophiles russes. Elle a fait appel lundi de sa suspension devant le tribunal arbitral du sport. La Fédération internationale d'haltérophilie avait décidé vendredi d'exclure l'ensemble des 8 haltérophiles russes qualifiés pour les JO de Rio pour des cas répétés de dopage.
Et ça n'en finit pas pour les athlètes russes, c'est la course contre la montre.
Le CIO et les organisateurs des Jeux de Rio sont lancés dans une véritable course contre la montre à 4 jours de la cérémonie d'ouverture vendredi. C'est presque un ultimatum. La question de la participation des sportifs russes doit être tranchée rapidement et en tout cas avant l'ouverture des Jeux vendredi. Le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, a indiqué lundi qu'il attendait même une réponse avant mardi. La décision finale revient à un panel de 3 membres nommés par le Comité international olympique, le CIO. Ce trio est chargé d'éplucher et éventuellement d'amender les listes de sportifs russes proposées par les fédérations internationales de chaque sport.
Et ailleurs, un athlète indien a été disculpé.
L'agence indienne antidopage a blanchi lundi le lutteur Narsingh Yadav, contrôlé positif aux stéroïdes anabolisants, affirmant qu'il avait été piégé par un de ses rivaux. Le panel de la NADA a conclu que Yadav n'est pas en infraction avec les règlements de l'agence indienne. Yadav s'est qualifié pour les Jeux de Rio en lutte libre dans la catégorie des moins de 74 kilos, dans laquelle il a remporté l'or aux Jeux du Commonwealth. Il a décroché sa place pour Rio grâce à sa médaille de bronze aux Mondiaux 2015 à Las Vegas.
Et on termine avec un mot sur le football.
Le milieu de terrain et international camerounais Alexandre Song quitte le FC Barcelone pour rejoindre le Rubin Kazan, a annoncé le club russe lundi sur son site internet et les réseaux sociaux. Ni la durée du contrat ni le montant du transfert n'ont été communiqués. Song, qui compte 49 sélections en équipe nationale, avait rejoint le FC Barcelone en 2012, mais évolué en prêt chez les Anglais de West Ham depuis deux saisons. Il a remporté un titre de champion d'Espagne et de Supercoupe d'Espagne avec le Barça en 2013. Il quitte le club un an avant la fin de son contrat qui courait jusqu'en 2017.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, à une semaine de l'investiture du président Idriss Déby Itno pour un cinquième mandat à la tête du pays, les six candidats contestataires cherchent des moyens efficaces pour contrecarrer sa légitimité. Les autres candidats malheureux qui ont reconnu leur défaite se mobilisent, eux, sur initiative du Premier ministre pour soutenir son programme politique. De N'Djamena, André Kodmajingar.
Réélu à sa propre succession en avril dernier avec 59,92%, Idriss Déby Itno sera investi le 8 août prochain. Le G6, groupe des partis politiques de l'opposition qui conteste ces résultats, est déterminé à donner du travail aux forces de l'ordre et à l'ANS, Agence nationale de sécurité. Ces contestataires viennent de mettre sur pied un mouvement dénommé FONAC, Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Un mouvement qui a vu l'adhésion d'une trentaine des partis politiques de l'opposition, y compris quelques membres de la CPDC, coordination des partis politiques de l'opposition pour la défense de la Constitution. Ce nouveau regroupement emporterait-il la dissolution des précédentes coalitions, dont la CPDC? Réaction de Salibou Garba, rapporteur général de la CPDC.
La CPDC n'a pas été consultée. Nous avons un manifeste politique et nous avons un règlement intérieur. Le règlement intérieur précise que pour dissoudre la CPDC, il faut une plénière. Et c'est la plénière qui délibère et qui vote à la majorité de 2/3. Or, une telle plénière ne s'est pas réunie. Donc qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 camarades qui aient adhéré à cette position n'emporte pas adhésion de la CPDC. La CPDC prend un gros morceau. Donc on ne peut pas dire que c'est rien du tout.
Le FONAC rappelle dans un communiqué de presse qu'il n'a pas besoin de requérir l'avis d'un regroupement des partis politiques existants, fût-il la CPDC, pour faire ce saut décisif et qualificatif. Le FONAC est une émanation du G6, l'aile dure, qui entend former le gouvernement de salut public. Les 6 autres candidats malheureux qui ont reconnu la victoire de Déby aux premières heures de sa réélection forme également le G6 sur initiative du premier ministre chef du gouvernement Paimi Padagé Albert. Dibi Diboukar Dibin, président du parti démocrate et socialiste, fait partie de ce groupe. Il conseille aux radicaux de sursoir à leur projet.
Il faut assimiler leur déclaration à l'effet d'annonce. Ils vont mettre comment, sinon ils se mettraient en position de rébellion. Et je pense qu'ils sont tous conscients des affres de la guerre et ils ne nous conduiront pas jusqu'à là. Ils ont, n'est-ce pas, des amis parmi nous. Si le gouvernement le souhaite bien, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à aller vers eux pour écouter, emboîter notre pas.
Pour Salé Kebzabo, chef de file de l'opposition et coordonnateur du FONAC, ce regroupement est monté de toutes pièces pour casser la dynamique de l'opposition dans sa lutte.
Être candidat à l'élection présidentielle n'est pas un jeu d'enfant. On est porteur d'un idéal tout à fait différent de celui que le pouvoir en place porte. Ce n'est pas une question de marchandage politique. Il faut que ces enfantillages-là cessent. Le contre-G6 est une idée de débit. C'est tout à fait normal que ceux qui étaient avec nous, qui ont eu un score lamentable pour la plupart, puissent aujourd'hui chanter et danser pour lui.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Élections en République démocratique du Congo. L'opération d'enrôlement d'électeurs a commencé dimanche à Badolité, dans la nouvelle province du Nord Ubangi. Selon la Commission électorale nationale indépendante, cette opération va s'étendre progressivement aux 25 autres provinces et concernera par la suite les Congolais de l'étranger. Reportage à Badolité de Walter Nguyen de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'opération lancée dans la ville de Gbadolite a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire du Nord Oubangui. Les premiers enrôlés de la première journée n'ont éprouvé aucune difficulté majeure. Un motif de satisfaction pour Désiré Ogbala, l'un des 5 premiers candidats à recevoir sa nouvelle carte d'électeur.
Nous avons constaté dans le centre qu'il y a eu quelques imperfections dues au maniement du matériel. Cela est dû à la formation accélérée. Les opérateurs de saisie et les membres des MC n'ont pas pu maîtriser. Mais nous savons que les jeunes gens qui ont ici maîtrisent l'informatique. Mais tout ce que nous savons, que les matériels sont performants et nous croyons qu'avec le temps, les choses iront pour le mieux.
Le président de la Commission africaine des supervisions électorales qui a observé cette opération en appelle à l'implication des acteurs politiques pour assurer la réussite de l'enregistrement des électeurs. Simaron Gongo.
Nous avons réellement observé la première carte reçue par la première personne ici à Gbadolite. Mais nous avons observé également que malgré tout ça, la CENI est confrontée à beaucoup de problèmes. Et nous avons remarqué que la population n'était pas sensibilisée. Nous demandons aux politiciens de s'impliquer à l'opération.
Appel entendu par le groupe des parlementaires présents sur les lieux. Emmanuel Kokate est député national élu de Yakoma.
Nous sommes là dans le cadre de nos vacances parlementaires. Nous devons descendre dans nos fiefs électoraux respectifs pour pouvoir mobiliser la population afin qu'ensemble ils viennent participer à ce processus qui va garantir la démocratie dans notre pays.
La CENI va faire une évaluation. Des résultats de cette opération dépendra une dernière orientation pour la production à grande échelle. Corneille Nanga est président de la CENI.
La qualité est bonne et nous allons faire une évaluation après une semaine. Les résultats de cette évaluation nous permettra de donner les dernières orientations pour lancer la production à grande échelle. Nous sommes en train de suivre notre plan comme tel. Dans les jours qui viennent, nous allons publier les chronogrammes de toute l'opération de la révision du fichier électoral. Et bien entendu, nous attendons publier les calendriers dès que possible.
Côté Nations Unies, on reste campé sur les principes. Mamadou Diallo, coordonnateur des agences du système des Nations Unies en RDC, a indiqué que la communauté internationale attend la publication d'un calendrier électoral afin de mettre la main dans le portefeuille. Il a par ailleurs rappelé que les Nations Unies apportent un appui technique, logistique et en termes d'expertise à la CENI. De retour de Gbadolite, Walter Nkouille de Top Congo pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Dans le cadre de la série de VOA Afrique sur les membres des familles présidentielles en Afrique, la Guinée, où malgré l'interdiction faite aux membres de sa famille de se mêler de la gestion des affaires publiques, le président Alpha Condé fait face aux accusations de corruption contre son fils, qui se trouve être l'un de ses conseillers. Il a demandé que lumière soit faite sur ces allégations. De Conakry, notre correspondant sur place, Zakaria Camara, a recueilli des réactions de la population.
Vrai qu'il est mêlé à toutes les affaires minières ici.
Bon, moi je ne saurais le dire exactement, puisque je n'ai pas d'informations par rapport à ça.
Bien sûr, ils sont impliqués, beaucoup même, surtout son fils.
Son fils est impliqué dans le secteur minier, voilà, et largement même. Ça, c'est reconnu de tous.
Ce que je cherche, la famille n'est pas impliquée de près ou de loin dans la gestion du pays. Sa femme n'est ni ministre, son enfant n'est pas ministre. Il ne gère pas une association ou bien une entité gouvernementale.
Ils ne sont pas nombreux à se réclamer de la famille du président Condé. Ils sont presque absents de la scène politique en Guinée. Au RPG Arc-en-Ciel, on rejette toute accusation contre la famille du président. Souleymane Keïta, responsable des jeunes du parti et conseiller à la présidence de la République.
Vous voyez, le gouvernement, il n'y en a pas, il n'y en a nulle part. Le président est un rassembleur. Il fait la différence entre la gestion de l'État et de ce qui n'est pas État. Donc, ce plan ne se pose pas.
Si le sujet est tabou à la mouvance présidentielle, le député Jean-Marc Téliano, ancien ministre de l'Agriculture, n'y va pas dans la langue de bois.
Quand vous parlez de sable mining, son fils est l'instigateur principal. Vous savez, on a toujours parlé d'audit. C'est Alpha Condé qui est monté sur ses chevaux pour parler d'audit. Mais aujourd'hui, il ne peut plus parler d'audit.
Le 11 mai dernier, le président Condé avait annoncé que la justice guinéenne allait faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le Britannique sable mining Mining a acquis ses concessions minières en Guinée. Une réaction aux accusations de corruption révélées dans un rapport de Global Witness. Des révélations qui ont fait réagir les députés de l'opposition.
Nous avions demandé des enquêtes parlementaires, surtout concernant Sab Mining, et vu l'implication de Bouba Sampil et Mohamed Alpha Condé, mais toujours, nous n'avions pas eu d'issue favorable.
Ce n'est pas un fait nouveau que la famille d'un président guinéen soit citée dans une affaire de corruption. Les membres de la famille du feu général Lansana Conté avaient brillé par leur rôle dans les activités politiques et économiques en Guinée. Dans un récent rapport publié par les Panama Papers, figure en bonne place l'ex-quatrième épouse de l'ancien président Lansana Conté dans le scandale de la société BSGR. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump sont en pleine campagne électorale. Les deux rivaux dans la course à la Maison-Blanche ont eu des échanges assez durs sur la Russie et la place des musulmans aux États-Unis. Idriss Fall.
En effet, Hillary Clinton a accusé son adversaire républicain d'avoir prêté allégeance absolue à la politique étrangère russe. M. Trump avait demandé que Moscou aide à retrouver les emails disparus du serveur privé de Mme Clinton, mais par la suite, le candidat républicain s'est rétracté, disant que c'était du sarcasme. Bien sûr, les démocrates sont engouffrés dans la brèche pour lui faire un procès en règle pour incompétence. Moscou, qui n'était pas en odeur de sainteté à Washington, a été pointé du doigt pour la fuite de 20 000 messages de cadres du Parti démocrate mettant à jour la méfiance et le mépris à l'égard de Bernie Sanders, l'ancien concurrent de Mme Clinton pour la primaire.
Controverse aussi sur la Russie et la question de la Crimée annexée par Moscou.
Donald Trump a dit, et je cite, « Le peuple de Crimée, d'après ce que j'ai entendu, préfère être avec la Russie. » Jake Sullivan, un conseiller de Mme Clinton pour les affaires étrangères, a immédiatement sauté sur ses propos qualifiés d'effrayants. Trump s'est aussi vanté que le président Vladimir Poutine le traite avec un grand respect, ajoutant que si notre pays s'entendait bien avec la Russie, ce serait une bonne chose, évoquant en particulier la lutte contre le groupe État islamique.
Ainsi, l'islam et la place des musulmans aux États-Unis ont été remis sur le tapis. Qu'en est-il, Idriss ?
Monsieur Trump avait déjà annoncé qu'il voulait interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Et il en a remis une couche ce week-end. Il s'en est pris au père d'un soldat musulman américain tué en Irak en 2004. Hizr Khan, un Américain originaire du Pakistan, l'avait durement critiqué pendant la Convention démocrate, l'accusant d'avoir une âme satanique et de manquer d'empathie. Mme Clinton a renchéri pour défendre ce père musulman qui, selon elle, a fait le plus grand des sacrifices, ajoutant « Qu'entendons-nous de Donald Trump ? Rien d'autre que des insultes et des commentaires désobligeants sur les musulmans. »
Et puis Idriss, elle a été soutenue par Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, qui, sans nommer Trump, l'a clairement désavoué. Toute cette polémique a joué légèrement en faveur de la candidate démocrate.
En effet, Hillary Clinton a profité du traditionnel sursaut post-convention. Elle a désormais 7 points d'avance sur son rival. Selon le tout dernier sondage CBS publié ce lundi, Mme Clinton enregistre un rebond de 4 points alors que M. Trump avait gagné seulement 2 points à l'issue de la convention des républicains qui a été marquée par un mini-scandale de plagiat de son épouse, mais surtout par le camouflet de Ted Cruz qui avait refusé devant des millions de téléspectateurs de le soutenir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre. Des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.